Chapitre 40. Anneau équatorial. Daeman hurla durant toute l'ascension. Sa vie et Harman en firent peut-être, sûrement, autant, mais Daeman n'entendit que ses propres cris. Dès que leurs fauteuils décollèrent puis basculèrent pour tourner autour de l'axe incandescent, offrant à un Daeman paniqué une vue imprenable sur l'étendue verdoyante du bassin méditerranéen, il prit conscience de deux forces agissant sur lui. L'accélération, tout d'abord, puis une pression constante sur l'ensemble de son corps, sans doute engendrée par un champ de force. Non seulement il était coincé sur les coussins rouges du fauteuil, mais en outre il avait la sensation qu'on lui écrasait un oreiller sur le visage, le torse, la bouche, les poumons, ce qui ne l'empêcha pas de hurler. Les trois fauteuils continuèrent leur ascension, décrivant autour de la colonne d'énergie blanche une hélice circulaire orientée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis Daeman se retrouva soudain face aux étoiles et aux anneaux. Il hurla de plus belle, sachant que son siège allait poursuivre sa rotation et qu'il allait en tomber, s'écrasant sur le sol à l'issue d'une chute de plusieurs dizaines de milliers de mètres. Il ne tomba pas, mais il continua de hurler à mesure qu'il s'éloignait de la Terre. Leur trajectoire semblait à présent parallèle à la surface de celle-ci. L'Asie centrale était plongée dans la nuit, mais elle était recouverte de gigantesques cumulus nacrés, au sein desquels des éclairs fugitifs illuminaient les terres rouges. Daeman ignorait, bien entendu, qu'il s'agissait de l'Asie centrale. Les fauteuils changèrent à nouveau d'inclinaison, lui offrant le spectacle des étoiles, des anneaux et d'une atmosphère visible à l'œil nu, au-dessous d'eux. Puis le soleil sembla se lever à l'ouest et ses feux se dispersèrent comme à travers un prisme pour former des rayons sang et or. Ils étaient maintenant presque sortis de l'atmosphère, mais Daeman l'ignorait. Le champ de force l'alimentait en air, le protégeait des effets de l'accélération et lui permettait de hurler tout son soûl. Il commençait à avoir mal à la gorge lorsqu'il s'aperçut que l'anneau E était tout proche. Cet anneau ne correspondait pas à ce qu'il avait imaginé, mais il était trop occupé à hurler et à se cramponner aux accoudoirs pour le remarquer. Daeman avait toujours visualisé les anneaux des postes comme des agrégats de châteaux en cristal, à travers les murs desquels on voyait les postes humains faire la fête et se livrer à d'autres activités typiques. Rien à voir avec la réalité. La plupart des objets étincelants vers lesquels il fonçait à toute vitesse, chevauchant un éclair agité de convulsions, étaient des structures complexes à base d'entretoises, de câbles et de galeries cylindriques qui ressemblaient à des antennes plutôt qu'à des habitats orbitaux. À l'extrémité de certaines de ces structures étaient fixés des globes d'énergie, au centre desquels pulsait une sphère noire. D'autres servaient de socle à de gigantesques miroirs, dont la taille se mesurait en kilomètres, constata Daeman entre deux hurlements, qui émettaient ou recevaient des faisceaux d'énergie bleue, jaune ou blanc cassé. Des sphères et des anneaux étincelants, apparemment composés des mêmes éléments que les ergostructures de l'Atlantide, actionnaient leurs lasers et leurs tuyères d'altitude, faisant éclore dans le vide des cônes de particules scintillantes. Aucun de ces objets célestes ne ressemblait à une demeure post-humaine. L'horizon de la Terre s'incurva de plus en plus, évoquant l'image d'un arc qu'on bande lentement. Le soleil se coucha de nouveau à l'ouest, et le ciel se peupla d'une explosion d'étoiles, à peine moins brillantes que les structures composant l'anneau. Loin, au-dessous de lui, à des centaines de kilomètres au bas-mot, Daeman vit une chaîne de montagnes enneigées que baignait l'éclat du ciel. Un peu plus loin, très à l'ouest, près du périmètre du monde, luisait un océan. Soudain, les fauteuils ralentirent leur rotation, et Daeman leva la tête et tendit le cou. Au sein de l'entrelac de miroirs et de structures s'avançait une montagne mobile, enveloppée d'une cité étincelante. Alors que Daeman interrompait son hurlement, son fauteuil s'inclina un peu plus vers l'avant, le champ de force le plaqua contre les coussins avec une vigueur renouvelée, et il vit que l'éclair d'énergie torsadée qu'il chevauchait allait frapper la cité étincelante de la roche géante. Cette cité n'était pas faite d'énergie pure. Elle semblait taillée dans le verre et chacune de ses centaines de milliers de facettes était éclairée de l'intérieur. Daeman pensa à une gigantesque lanterne japonaise. Alors qu'il constatait que leur folle course allait s'achever par une collision frontale avec l'une des plus hautes flèches de cette montagne orbitale, son fauteuil bascula, le champ de force lui coupa le souffle et sous l'effet d'une violente décélération, vira au rouge, puis au noir et de nouveau au rouge. Il n'avait pas assez ralenti. Daïman hurla une dernière fois au bord de l'extinction de voix, puis ils emboutirent le bâtiment qui devait bien compter une centaine d'étages. Il n'y eut ni impact, ni bris de glace, ni collision fatale. Le mur se gauchit, les absorba, et ils se retrouvèrent dans une sorte de tunnel conique, comme au sein d'une masse de caoutchouc jaune, pour échouer finalement dans une pièce hexagonale au mur d'un blanc étincelant. La colonne d'énergie s'évanouit. Les fauteuils rompirent leur formation. Les champs de force se désactivèrent. Daïman hurla une dernière fois, glissa sur un sol dur, rebondit contre un mur qui l'était encore plus, puis ricocha sur le plafond et atterrit sur le sol. Et ne vit plus que le noir. Chute libre. Daïman se réveilla en sursaut, son corps comme son esprit s'accordant pour lui dire qu'il était en train de tomber. Du fauteuil? Vers la terre? Il ouvrit la bouche pour pousser un hurlement, mais la referma en constatant qu'il flottait dans l'air, avec sa vie agrippée à l'un de ses bras et Arman à l'autre. « Flotter ? Non, je tombe !» Il se débattit, se trémoussa, mais Savi et Arman, qui flottaient eux aussi dans la pièce blanche, accompagnèrent ses mouvements sans le lâcher. « Tout va bien !» dit Savi. « Nous sommes en zéro G. »«
En quoi ?»
octa Daïman. « En gravité zéro. Nous ne pesons plus rien. Tiens, mets ceci. » Elle lui tendit l'un des masques osmotiques prélevés dans le rampeur. Daïman vit qu'il était déjà coiffé de la capuche de sa thermopeau et que le tissu intelligent de celle-ci avait ganté ses mains. Il se débattit de plus belle, mais ses deux compagnons lui placèrent le masque transparent sur le visage.
« Il est conçu pour filtrer l'atmosphère en cas d'incendie ou d'émanation de gaz toxique, » expliqua Savi. « Mais il te permettra de survivre quelques heures dans le vide. »«
Dans le vide ?» répéta Daïman.
« La cité des postes a perdu sa gravité et le plus gros de son atmosphère, » dit Arman. Nous avons déjà traversé le mur pendant que tu étais inconscient. Il y a suffisamment d'air pour nager, mais il n'est pas assez dense pour être respiré.
Assez d'air pour nager?
Traverser le mur?
Se dit Daïman en proie à un violent mal de tête.
Ça y est, ils sont fous tous les deux.
Comment peut-on perdre sa gravité?
Demanda-t-il.
Je pense qu'ils utilisaient un champ de force pour conférer une forme de pesanteur à leur environnement, dit Savi. Cet astéroïde n'est pas assez gros pour avoir un champ gravifique, et la cité semble orientée vers le sol.
Daïman s'abstint de lui demander ce qu'était un astéroïde. Cela lui était indifférent.
« Est-ce qu'on peut redescendre ? »
s'enquit-il, s'empressant d'ajouter.
« Il n'est pas question que je remonte sur ce fauteuil !»
Le sourire de sa vie était visible sous son masque osmotique. Elle avait ôté ses vêtements pour accroître l'efficience de sa thermopeau et celle-ci, à peine plus épaisse qu'une couche de peinture couleur pêche, ne laissait rien ignorer de son corps décharné. Arman était lui aussi vêtu de sa seule thermopeau bleue. Daïman baissa les yeux et constata qu'on l'avait débarrassé de ses vêtements, de sorte que sa thermopeau verte ne cachait rien de ses formes grassouillettes. Les voix de ses compagnons lui parvenaient via les écouteurs de sa capuche, et il percevait aussi l'écho éraillé de la sienne dans le microphone.
« Ces fauteuils n'iront plus nulle part, » déclara sa vie.
D'un mouvement de la tête, elle désigna l'endroit où flottaient des débris de bois et de tissu rouge.
« Je n'arrive pas à croire que les post-humains se déplaçaient de cette façon, » dit Arman.
En entendant sa voix tremblante, Daïman comprit qu'il n'était pas le seul à avoir été secoué par leur voyage.
« Peut-être qu'ils étaient amateurs de montagnes russes, »
dit Savi.
« C'est quoi des... »
commença Daïman.
« Peu importe, »
coupa la vieille femme. Soulevant le sac à dos qu'elle avait calé sur ses genoux durant leur ascension, elle dit
« Prêt à traverser le mur pour aller à la rencontre des postes ?»
Finalement, c'était assez facile de jouer au passe-muraille. Daïman eut l'impression de franchir une sorte de membrane peu résistante, ou alors de nager sous une cascade d'eau tiède.
Nager. Dans l'air.
Même au bout d'une demi-heure, ça lui paraissait toujours aussi étrange. Au début, il avait mouliné des bras et des jambes au petit bonheur la chance, ne réussissant qu'à bouger que pour bouler cul par-dessus tête. Puis il avait appris à se propulser d'un coup de pied en prenant appui sur des objets solides, parcourant ainsi jusqu'à 30 mètres d'un coup, utilisant ses jambes pour avancer et ses mains pour corriger sa trajectoire. Tous les édifices semblaient connectés l'un à l'autre, et contrairement à ce qu'il avait cru lors de leur approche, ils n'étaient pas éclairés de l'intérieur. Une chaude lueur se déversait par les fenêtres, mais c'était celle-ci qu'il émettait. Les vastes salles,
Celle où ils débouchèrent après avoir traversé le mur blanc était large de 100 mètres et haute de 300, avec des balcons et des terrasses ouvrant sur trois de ses parois, baignait dans le faible éclat orangé dispensé par les lointaines fenêtres, et Daeman crut un instant se trouver dans les profondeurs océanes. Comme pour accentuer cette illusion, les végétaux laissés à l'abandon atteignaient jusqu'à 15 mètres de hauteur et flottaient sous une légère brise ainsi que des alignements d'algues gigantesques. Daeman put évaluer la faible densité de l'atmosphère lorsqu'il s'efforça de nager dans ce qu'il en restait. Et bien que la thermopeau ait recouvert la totalité de son épiderme et conservé la totalité de sa chaleur corporelle, il percevait le froid glacial qui régnait en ces lieux. Ces effets étaient également visibles, car les cloisons intérieures en verre étaient recouvertes d'une fine pellicule de glace et, çà et là, de petits amas de cristaux accrochaient la lumière comme des grains de poussière dans une cathédrale aux vitraux inondés de soleil. Ils tombèrent sur les premiers cadavres, 5 minutes à peine après avoir entamé leur exploration de l'astéroïde. Ils nageaient au-dessus d'une surface recouverte d'herbes, d'arbres et de plantes terriens, parmi lesquels Daeman distingua aussi des végétaux qui lui étaient inconnus. Mais tous ces organismes étaient morts, exception faite des pseudo-algues. Sur les murs, ainsi que sur des colonnes métalliques, se nichaient des balcons à ciel ouvert, des salons et des salles à manger, dont la disposition au sein de ce gigantesque parc donnait une idée de la faible intensité du champ de force dispensateur de gravité. Apparemment, les postes humains avaient la capacité de bondir depuis le sol pour s'élever d'une trentaine de mètres, voire davantage, reprenant ensuite leur élan à partir d'une dalle ou d'une plateforme. Sur nombre de ces dernières, on trouvait encore des tables festonnées de givre, des chaises renversées, des sofas rembourrés et des tapisseries gelées. Et des cadavres. Sa vie franchit d'un seul bond les 30 mètres et quelques qui la séparaient d'une terrasse. Jadis, celle-ci donnait sur une chute d'eau issue d'un point situé 150 mètres plus haut sur la paroi de permabéton, réduite aujourd'hui à l'état de fragile dentelle de glace, et le salon n'hébergeait plus que des corps flottants. Des corps féminins, exclusivement féminins, bien que ces cadavres gris aient davantage ressemblé à des momies qu'à des êtres humains, d'un sexe ou de l'autre. Ils n'avaient guère souffert de la décomposition. Mais au fil des ans, des décennies, des siècles peut-être, le froid et la dépressurisation les avaient totalement desséchés. Lorsque Daeman s'approcha du premier amas, les corps flottaient dans l'air ténu, mais ils s'étaient pris dans les raies d'un filet tendu entre la terrasse et la cascade à des fins de décoration. Il décida que plusieurs siècles s'étaient sans doute écoulés depuis que ces femmes avaient respiré, volé et vécu dans une gravité que sa vie estimait à un dixième de la pesanteur terrestre, depuis qu'elles avaient ri et s'étaient livrées aux activités préférées des postes humains avant... Avant quoi ? Leurs yeux étaient encore intacts, quoique paralysés et voilés au sein de leur visage de cuir gris, et Daeman fixa le regard laiteux de tous ces cadavres, comme s'il pouvait y trouver une réponse à ses questions. Aucune ne lui étant venue, il s'éclaircit la gorge et dit dans son microphone « Qu'est-ce qui a pu les tuer, à votre avis ?»«
Je me posais la même question, » dit Harman.
Il s'approcha d'un autre groupe. Le bleu vif de sa thermopeau offrait un contraste presque choquant avec le gris terne des corps et la pénombre des lieux.
« Une soudaine dépressurisation » proposa-t-il.
« Non, » fit Savi.
Son visage ne se trouvait qu'à quelques centimètres de l'une des mortes.
« Il n'y a ni hémorragie oculaire, » ni signe d'asphyxie, ni rupture des tympans, comme il s'en produirait en cas de disparition soudaine de l'atmosphère. Et regardez ceci.
Les deux autres se rapprochèrent. Savi inséra 3 doigts gantés à l'intérieur d'une plaie ouverte dans la gorge du cadavre. Ils s'y enfoncèrent sur toute leur longueur. Écœuré, Daeman s'éloigna d'un coup de pied, mais pas avant d'avoir remarqué que les autres corps présentaient des marques similaires à la gorge, aux cuisses et au thorax.
« Des charognards ?» suggéra Harman.
« Non, je ne crois pas, »
dit Savi en allant d'un cadavre à l'autre pour examiner leurs blessures.
« Et ce n'est pas non plus une conséquence de la décomposition. À mon avis, il ne devait pas y avoir beaucoup de bactéries viables par ici, même avant la baisse de température et de pression atmosphérique. Peut-être que les postes humains n'avaient même pas de bactéries symbiotiques.
« Comment est-ce possible ?»
fit Daeman. Savi se contenta de secouer la tête. Elle se dirigea vers une autre plateforme où se trouvaient 2 cadavres coincés sur leur siège, les plaies qu'ils portaient au ventre étaient béantes.
Des lambeaux de tissu déchirés flottaient dans l'air ténu.
« On leur a déchiré le ventre à coups de dents, »
murmura-t-elle.
« Comment ?» fit Daeman.
Sa voix semblait bien fluette dans le microphone.
« Je pense que tous ces gens, tous ces postes, ont succombé à leurs blessures, »
reprit sa vie.
« On les a mordus à la gorge et au ventre. On leur a arraché le cœur. »«
Comment ?»
répéta Daeman. Au lieu de lui répondre, sa vie attrapa le pistolet dans son sac à dos et le fixa à la plaque de velcro sur la cuisse de sa thermopo. Elle désigna le couloir principal de la cité qui se déroulait en ligne droite devant eux pour s'incurver doucement au bout de 1500 mètres.
« Il y a quelque chose qui bouge par là-bas, »
dit-elle. Sans attendre de voir si les deux hommes allaient la suivre, sa vie se propulsa dans cette direction.